VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi en temps universel, bonsoir, bienvenue. La République démocratique du Congo, dans l'attente de la convocation d'un dialogue national souhaité par le président Joseph Kabila et annoncé comme imminente. Le pouvoir présente ses assises comme le moyen de dénouer la crise politique actuelle liée à l'organisation des élections à venir à la fin du mandat de M. Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter. Une grande partie de l'opposition a déjà fait part de son refus de participer à ce dialogue, qu'elle qualifie de manœuvre dilatoire destinée à permettre au président au pouvoir depuis 2001 de prolonger son bail à la tête de l'État. La situation au Burundi préoccupe la communauté internationale et les organisations des droits humains. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier pour débattre de la question, alors que Human Rights Watch vient de lancer un appel à tous les acteurs clés. Cette organisation non gouvernementale estime en effet qu'il faut mettre un accent sur des actions préventives et que l'ONU doit renforcer sa présence à Bujumbura. On écoute l'analyse de Philippe Volopion, le directeur auprès de l'ONU de Human Rights Watch, sur la situation au Burundi.
La situation est extrêmement grave au Burundi. Depuis des semaines, on retrouve des corps dans les rues le matin. Dans de nombreux cas, il semblerait que certaines de ces morts soient dues à un usage de la force excessif de la part de la police burundaise. On entend aussi des discours menaçants de hauts responsables au sein du gouvernement qui parfois semblent tenter de diviser les Burundais ou d'appeler à la violence. Et donc tout cela fait que le pays semble aujourd'hui être au bord du gouffre et il est très important que la communauté internationale fasse de son mieux pour essayer de prévenir le pire.
Alors justement, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour parler du Burundi. Qu'est-ce qui ressort de ces assises ?
On a assisté à des discours très alarmants de hauts responsables onusiens, le conseiller de l'ONU pour la prévention des génocides, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, un haut responsable onusien chargé des affaires politiques. Tous ont la même analyse de la situation, tous préviennent qu'une catastrophe est possible au Burundi et tous encouragent le Conseil de sécurité de l'ONU à réagir et à réagir vite avant qu'il soit trop tard.
Philippe Volopion, le directeur auprès de l'ONU de Human Rights Watch, sur la situation au Burundi, au micro de John Lyndon. Le gouvernement tchadien a décrété hier l'état d'urgence dans la région du lac Tchad, souvent le théâtre d'attaques attribuées au groupe Boko Haram. Arzuma Compaoré.
Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant l'état d'urgence dans la région du lac Tchad, frontalière du Nigeria. Maintenant, le gouverneur de cette région a le pouvoir d'interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et horaires qu'il aura fixés. Il peut aussi ordonner des perquisitions des domiciles de jour et de nuit sous l'autorité du procureur de la République et de récupérer des armes. Dimanche, deux femmes kamikazes se sont faites exploser à Ngouboua sur les rives du lac Tchad. Deux personnes au moins ont été tuées et 14 autres blessées. Le 10 octobre, un triple attentat suicide à la sous-préfecture de Bagassola s'était soldé par 41 morts.
10h04 à Dakar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Rideau ce mardi sur la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le forum qui a réuni près d'un millier de personnes a discuté des défis du terrorisme sur le continent. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, organisateur du forum, parle ici des perspectives pour se débarrasser du terrorisme en Afrique.
Personne ne pourra régler les problèmes du terrorisme, les autres défis de la sécurité en Afrique, si les Africains ne se mettent pas en première ligne. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité, y compris avec des amis qui ont les meilleures intentions du monde. Alors, l'Afrique a maintenant un défi structurel. Nous avons 54 États et ces États pris individuellement, y compris les gens comme le Nigeria, ne peuvent pas tout seuls prendre en charge le défi du terrorisme. Nous sommes obligés et contraints à ce que nous appelons la mutualisation, la mise en commun de nos ressources, de nos intelligences, de nos compétences pour travailler ensemble à faire face au défi du terrorisme. D'autant plus que nous avons affaire à des gens qui sont en réseau, qui travaillent ensemble, qui coordonnent leurs informations, leurs renseignements. Nous devons absolument faire la même chose, aller au-delà des préoccupations de souveraineté nationale pour comprendre que seules des forces régionales africaines, bien coordonnées, bien entraînées, bien équipées, peuvent aider le continent à faire face à cette guerre asymétrique, ce défi sans précédent dans l'histoire du continent.
L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Tidiane Gadio, Diallo, organisateur du Forum sur la paix et la sécurité à Dakar. Au Nigeria, des militants commémorent aujourd'hui le 20e anniversaire de l'exécution de l'écrivain Ken Saro Wiwa. Ce dernier avait alerté l'opinion mondiale sur le désastre écologique lié à l'exploitation du pétrole dans le delta du Niger. La célébration de Ken Saro Wiwa intervient une semaine après la publication d'un rapport dénonçant les fausses affirmations du géant pétrolier anglo-néerlandais Shell sur l'étendue de ses activités de dépollution dans la région. Et maintenant, le dossier de ce journal avec la campagne électorale au Burkina Faso. La campagne bat son plein depuis ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives. Cette année, comme à chaque échéance électorale depuis plusieurs années, l'État soutient financièrement les médias du pays pour une bonne couverture de la campagne, mais un journal, le quotidien Le Pays, a toujours décliné cette offre, invoquant des principes de neutralité. Pour en savoir un peu plus, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Bondi Woba. Il est le rédacteur en chef du journal Le Pays.
Les raisons sont très simples. Il faut dire que cette décision, nous l'avons prise depuis les élections de 2010, qui avaient vu la réélection de Blaise Compaoré à la tête de l'État burkinabé. Alors, essentiellement, nous avons décidé de ne pas prendre la subvention de l'État sur la campagne. Tout simplement, nous avons estimé que jouer au jeu de l'équilibre en couvrant la campagne et en accordant les mêmes chances à tous les candidats, ce n'est pas chose évidente. Pour ne pas donc égratigner la chance d'un candidat et donner toutes les chances égales à tous les candidats, nous avons donc décidé d'observer et de ne faire l'écho d'aucun meeting et d'aucune campagne. En revanche, nous l'avons dit et nous répétons, si un candidat se rend coupable d'actes de violence, de vandalisme ou de tout autre comportement répréhensible, nous ferons la relation.
Mais en faisant ainsi, vous n'éclairez pas l'électeur qui attend de vous que vous apportez l'information sur chaque candidat?
Oui. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons décidé de reconduire notre éditorial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur notre décision de ne pas couvrir la campagne qui date de depuis 2010. Et à chaque échéance électorale, à la veille de chaque campagne électorale, c'est plutôt pour éclairer l'opinion sur notre position qui est de ne pas couvrir la campagne en ses aspects meeting.
Et si vous couvriez ces campagnes et justement releviez ces parties qui concernent la démagogie, est-ce que ça ne rendrait pas plus service aux électeurs?
Ce n'est pas le seul aspect qui fonde notre décision de ne pas couvrir la campagne. L'autre aspect consiste à ne pas, autour d'un commentaire ou d'un reportage, utiliser un mot qui peut paraître de trop, qui peut paraître donc en train d'égratigner les chances d'un candidat. C'est un exercice très délicat pour la presse en ces temps difficiles. Cela dit, nous avons fait un choix et nous respectons le choix qu'ont fait les confrères de couvrir aussi la campagne.
Quel est votre rôle dans cette campagne-là?
Notre rôle, il y en a un, c'est la neutralité.
Bondi Woba, le rédacteur en chef du journal Le Pays au Burkina Faso.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Birmanie, les héritiers de la junte, toujours aux commandes du pays, ont commencé aujourd'hui à reconnaître leur défaite face à l'opposante Aung San Suu Kyi, alors que les résultats confirmant sa domination tombaient au compte-gouttes. Si les chiffres sont encore trop partiels pour dégager une tendance nette, le parti d'Aung San Suu Kyi revendique d'ores et déjà une victoire écrasante de plus de 70% aux législatives de dimanche, grâce à un important réseau d'observateurs. Les partisans d'Aung San Suu Kyi retenaient leur souffle, cependant respectant pour l'heure les consignes de patience. Oui, des 15 candidats à l'investiture présidentielle du Parti républicain ont passé la sélection pour le 4e débat de la saison ce mardi. Le débat va se tenir à Milwaukee dans l'État du Wisconsin, au nord des États-Unis. Pour l'instant, les deux outsiders, Donald Trump, un milliardaire, et Ben Carson, neurochirurgien à la retraite, monopolisent le haut des sondages. Ils représentent environ la moitié des intentions de vote des républicains américains. Et nous terminons avec du sport. Pour parler de dopage en athlétisme, la Russie clouée au pilori par l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, qui a réclamé leur mise au banc du monde sportif dans un rapport explosif. Le document de l'AMA, diffusé hier, dénonce une culture profondément enracinée de la tricherie et une mentalité fondamentalement dévoyée, profondément inscrite chez tous les athlètes russes. L'agence russe antidopage a rejeté des accusations infondées. Le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, a promis de coopérer avec n'importe quelle commission d'enquête, à condition qu'elle soit impartiale. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans 50 minutes. Et ce sera avec Henri Francisque. Jean-Roger Billon à ce micro. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.